Boulevard 102.1.
Spotify 10,99 par mois, Patreon 5$, abonnement au câble 55$, journal 24$. Boulevard 102.1. La meilleure musique. Les podcasts, tout ce que tu dois savoir sur l'actualité, puis des vidéos de Reg sur nos médias sociaux. Bye-bye, OnlyFans. Tout ça pour la grosse somme de 0$. Gratis. Application gratuite, web radio gratis, FM gratis. Boulevard 102.1. La vraie solution à l'inflation.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon invité de ce soir, Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média, l'agent russe qui est en studio. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça peut être sûr, hein? Quand tu vois ça sur les réseaux sociaux. Ah, ce gars-là de Spoutnik, là, il est payé par les Russes, il est payé en roubles. En rouble. Est-ce que les gens sont fous ou ils ont parfaitement raison à ton égard?
Bien, c'est parce que une théorie de la conspiration. Hein?
Oui!
Donc, bon, les gens qui... sont censés dénoncer le complotisme, souvent, actuellement, verse dans une forme de complotisme. Ou dans le
ben, sont à l'extrême, en fait. Là. Oh, ils sont à l'autre extrême.
Donc, ça m'amuse parce que, oui, c'est vrai, j'ai été à l'emploi quelques années de l'agence de presse russe avant le déclenchement de la guerre en Ukraine.
Ouais.
Et j'ai démissionné le jour 1 de l'invasion russe.
Ah ouais?
Mais par contre, pendant ce temps-là, je n'étais pas, ce n'était pas non plus mon seul employeur. C'est-à-dire, j'ai écrit dans plusieurs revues en France. D'ailleurs, je travaillais pour le bureau de Paris, là, moi, à ce moment-là, au bureau de Paris, de l'agence de presse russe.
Fait, finalement, tu travaillais pour l'agence de presse russe, mais tu étais payé en euros.
En euros. Bon, donc, je n'ai jamais
ça se défait, là.
Été payé en roubles. Donc, oui, ben, c'est une agence quand même qui reste affiliée à l'État russe, un peu comme les Radio-Canada ou ouais. Canada. Donc, je regrette pas cette expérience-là, malgré tout, même si
mais comment c'est présenté, l'opportunité s'est pointée?
Ben, écoute... j'ai accordé une entrevue sur mon livre paru en 2018 en France, La face cachée du multiculturalisme.
Ouais.
Et là, je suis vraiment dans les confidences. Et on me demande d'accorder une entrevue sur le thème de mon livre parce que j'étais en France à l'occasion d'une tournée médiatique. Là.
Uh-huh.
Et je vais rencontrer les gens de Spoutnik à ce moment-là à Paris, dans leur studio. Et
c'est des Russes?
Non, c'est de la plupart, ils sont français. Okay. C'est des Français. Je pense que le grand patron était d'origine russe. Des très beaux bureaux. Là. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait actuellement à Paris, parce que bon, ça ne diffuse plus actuellement, là, ce média-là. Mais moi, je suis en recherche d'emploi, hein, essentiellement à ce moment-là. Et on se parle, je deviens ami avec la rédaction. Puis je commence à faire des textes sur tout ce qui est le Canada, les États-Unis, le Mexique, les relations entre le Mexique et les États-Unis. Donc, honnêtement, je ne regarde vraiment pas parce que sur le plan professionnel, strictement, ça m'a permis d'aborder des thèmes costauds. Parce que je pense que si j'avais été commencé comme journaliste à Québec, au genre de Québec, peut-être j'aurais plus traité genre de...
Il y a un chat qui s'est fait écraser sur le boulevard Charest.
J'osais pas le dire, ou d'un camion de vidange qui coule dans le coin de Loretteville. C'est pas tout à fait des choses que j'avais envie de couvrir.
Ça t'intéressait pas. Ça prend des gens pour le faire quand même, mais toi, ça t'intéressait pas. C'est pas ça que tu voulais. Tu voulais quelque chose de plus lourd, là, du costaud.
Oui, non, honnêtement, ça correspondait à mes intérêts. Tu sais, de la politique internationale. Donc, puis surtout, il faut le dire quand même, cette agence-là permettait une liberté d'expression qu'on n'avait pas nécessairement ailleurs. Donc, tu sais, c'est pas rien que des gens, entre guillemets, de droite se sont retrouvés, temporairement, comme par exemple le célèbre animateur Tadi en France qui animait une émission à RT.
Ouais.
Il était là parce que, bon, c'était un canal qui permettait une liberté d'expression qu'on n'avait pas sur des chaînes du service public, comme on dit en France. Donc, Ça correspondait aussi, c'est ça. Moi, j'avais un espace. Étonnamment, ce média-là m'a permis une très grande liberté. Et j'ai pas été censuré non plus.
Et puis leur objectif, là, d'avoir des agences de presse, toi, t'écrivais en français et en anglais?
En français. Des fois, les articles étaient traduits, je pense, pour d'autres éditions. Là.
Mais j'imagine qu'ils étaient traduits en russe, là?
Rarement. Je pense que c'est... Oui, ça peut être arrivé une fois. Mais non, c'est un média international, un peu comme Radio-Canada International. Okay. Ou l'AFP, par exemple. En fait, tous les États ont une agence de presse. Là, c'est pas non plus quelque chose d'exotique. Les Russes, les Chinois ont une agence de presse chinoise. Les Turcs ont... Je ne me rappelle plus le nom. Radio-Canada, ben, c'est quand même aussi un média d'État qui est financé, qui a une mission aussi de promouvoir le Canada sur la scène internationale. Il ne faut pas s'en cacher. Donc, tous les pays du monde ont ça. Donc, aux États-Unis, je pensais au USA Today. donc, c'est pas quelque chose de très original, en ouais. fait. Donc, c'est sûr
t'as que... Tu n'as pas moi... eu à faire un détecteur de mensonges, je prends, aller dans cette agence-là. Là.
Non, puis comme je dis, moi, j'avais pas de... Mais c'était quand même... Il y avait un certain... T'sais, il y avait une certaine excitation dans le sens où ça reste que c'était très original pareil.
Ben oui.
Que les gens me demandent un peu effectivement comment c'est arrivé, mais c'est pas non, mais quand on l'explique, ça reste assez simple et banal.
T'es mieux qu'on l'explique pas, ça nous permet de rêver
encore. Ben c'est
plus.
Ça, puis d'avoir ben des oui. théories de conspiration. C'est moi qui alimente ma légende. J'aime mieux qu'on alimente ma légende ouais. d'agent.
On n'aurait jamais dû dire ça à soir, là, raconter toute la vérité.
Et ça, ça, mais c'est drôle parce que je pense que je n'avais pas raconté vraiment, tu vois, ce que là, je sens que vous avez vraiment des confidences.
Ça te fait super. À quel point les gens peuvent être dans leur salon ou dans leur sous-sol complètement fous à l'égard des gens qui ne pensent pas comme eux. Moi, ça, ouais, me, oui. fait, ça me fait peur. Puis, tu sais, c'est peut-être parce qu'on est encore trop jeune, Jérôme, parce que tu sais, si on prend Denis Lortie là, à l'Assemblée nationale en 1984, lui aussi en avait beaucoup contre le gouvernement. Mm-hmm. Mais le gars, il s'était monté une histoire dans sa tête. Il y avait des épisodes de schizophrénie aussi. Il avait l'impression d'être dans le vrai monde alors qu'il était complètement déconnecté. Prend ses armes à la base militaire de Carp en Ontario, descend à Québec avec une information comme quoi le premier ministre va être là, laisse une cassette à André Arthur de l'époque en 1984 à Marie Labadie, c'est écrit ne pas ouvrir avant telle heure. Lui se pointe à l'Assemblée nationale, ouvre le feu, tue des gens, s'assoit sur le trône présidentiel. Les gens, ils ont dit non, non, mais il se passe rien ici. Le premier ministre n'est pas là. Là. C'est cet après-midi. Puis là, il dit ah, je te retarde, il tire son dentier. Complètement out there, le gars. Puis il s'était crinqué chez lui. Là.
Ah oui.
T'sais, puis là, aujourd'hui, on a Internet. Fait quand, là, ils sont vraiment chez eux, mais ils peuvent faire du dommage à distance. Là.
C'est pas ça existe dans tous les cas, effectivement.
C'est pas toutes des petits
demi-lorties. C'est comme une réalité parallèle.
Les gens peuvent être méchants. Ils peuvent. Parce que tu ne penses pas comme eux, tu es un politicien, exemple, puis tu penses pas comme eux, ben ils peuvent aller dans le personnel, ils peuvent aller chercher la photo de ta femme, photo de tes enfants, ils peuvent mettre la photo de ta maison sans aucune gêne, là.
Ouais, puis c'est illégal.
Même, la mafia n'allait pas jusque-là dans le temps. La mafia...
Ah oui, c'est des techniques effectivement d'intimidation, mais des fois criminelles parce qu'on sait que le doxing est interdit, etc. Mais comme tu dis, on a quand même affaire à des gens qui se développent un univers parallèle et qui sont devenus complètement, en fait, imperméables à la banalité des choses, si je peux dire. C'est-à-dire que, tu sais, d'abord, les gens sont des gens, souvent, ils ont une histoire. C'est pas des... C'est drôle parce que là, on parle de gens qui dénoncent le complotisme, encore une fois, mais qui sont carrément, effectivement, dans le complot. Là. Ouais. Donc, quand on dit que je suis un agent russe, qu'on va naître... Bon, puis là, il y a peut-être des gens que c'est la première fois qu'ils entendent parce que c'est un peu ridicule. Bien, c'est une théorie de la conspiration, là. Donc...
Mais c'est comme s'ils essaient de te coller une étiquette
ouais.
qui va te faire mal pour le reste de ta carrière. Ce qu'ils ont fait avec Éric Duhaime, tu sais, moi, je j'ai pas de parti politique. Je suis orphelin politique. Je suis pas plus près du Parti conservateur du Québec ou Parti conservateur du Canada. Je suis pas plus près du Parti québécois. J'en ai pas. Je suis orphelin. Puis je souhaite juste qu'un jour, le Canada ait mieux puis que le Québec puisse bien aller. Puis que les États-Unis puissent bien aller aussi. Peu importe le président ou la présidente qui sera là. Mais les gens pensent pas comme toi, puis là, sont prêts à faire n'importe quoi pour te faire du mal. Éric Duhaime, on lui a collé l'étiquette quand il a été élu chef du Parti conservateur du Québec. On lui a dit que c'était le chef des homophobes, alors que lui-même ben oui. est un homosexuel assumé,
oui.
est en couple depuis des années.
Il a écrit un livre là-dessus.
Il est peut-être anormal pour les gens très, 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 très dans la communauté parce qu'il est en couple depuis des années, là. Mais n'en demeure pas moins que, tu sais, il a subi les mêmes affaires que ces gens-là. Et pour lui faire du mal, on disait que c'était le chef des homophobes. On a greffé des mots à des gens en disant « Ah, mais lui, c'est un misogyne. »
Oui, ouais. Puis raciste aussi à l'époque.
Raciste.
C'était très utilisé.
J'ai vu passer sur...
Mais encore aujourd'hui.
J'ai vu passer sur Twitter, c'était un animateur de radio qui est plus sur les ondes hertziennes. Ils l'ont même traité de pédophile.
Qui ça?
Sur Twitter, je sais pas, je connais pas leur adresse IP. Mais c'est toute une gang du... C'était pas du M, c'était un autre animateur de radio qui est plus sur les ondes hertziennes.
Okay.
Il traitait de pédophile, de ci ou de ça. On serait curieux de savoir ce qu'il fait avec ses enfants, blablabla. les gens sont prêts à aller très loin. Puis, parce qu'ils savent qu'ils ont un peu le couvert de l'anonymat. T'sais.
Ah ben c'est ça, c'est beaucoup ça qui les sert.
Si on était, je sais pas moi, Justin Trudeau ou si on était Pierre Poilievre, ben là, il y a un service de renseignement qui peut enquêter pour trouver l'adresse IP et aller te rendre visite. Mais nous autres, on est comme tout le monde. Là. Si moi, quelqu'un m'attaque sur les réseaux sociaux, ça va être dur pour moi d'essayer de retrouver ce gars-là. Puis qui est-ce qui a inventé cette histoire-là?
Ça prend une carapace, il faut le dire. Là.
Ah, il faut être fait solide, là, tu sais.
Ouais.
Faut vraiment être fait solide. Puis, tu sais, je prends un gars comme Éric Duhaime, je prends un gars comme Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui a comme. C'est un extrémiste, Gabriel Nadeau-Dubois, mais il y a les autres extrêmes qui en veulent constamment.
Sans doute, oui.
Qui l'harcèlent constamment.
Ben, un peu comme Valérie Plante aussi, ça a été reconnu.
Valérie Plante, là, Bruno Marchand.
Il va recevoir beaucoup d'insultes. Mais tu vois, c'est moi, être à Mexico pendant plusieurs années, quand même, ça me permettait quand même de maintenir une distance aussi. Il y avait je suis pas allé pour ça. Mais moi, il y a carrément un moment où il fallait que je sorte du Québec, intellectuellement d'abord, parce que j'étouffais intellectuellement, je sentais que le climat intellectuel, médiatique surtout, était trop lourd. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien, là, moi, dans ma vie, là, de sortir du Québec. Après ça, il y a eu la pandémie, donc c'est sûr que j'étais aussi bien d'être au Mexique durant cette période-là parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose ici. Là.
Ouais.
Donc, à un moment donné, il fallait que je sorte. Puis oui, ici, quand même, le fait d'être à Québec maintenant nous fait qu'on n'est plus comme engagé au quotidien dans notre travail. Puis bon, on nous rappelle plus souvent par le simple lieu géographique qu'on fait ça dans la vie. Alors qu'à Mexico, reste que, bon, j'avais mon ordi, bon, tu fais un tweet, il reste que tu lèves la tête, OK, je suis à Mexico.
Il y a des palmiers.
Ouais, puis c'est le fun. Personne ne me connaît, puis je ne veux pas dire que je suis une vedette non plus, là, mais tu décroches, là. Tu décroches bien plus.
Parce que
tu
étais à distance.
Oui, ouais, j'étais dans un autre univers. Puis les nouvelles aussi du Québec, il faut dire, vu de Mexico, paraissent souvent insignifiant, donc ça prend on prend vraiment une vraie distance. C'est-à-dire, les problèmes du Québec sont nettement relativisés. Nos problèmes à nous sont aussi relativisés. Il faut dire qu'il y a aussi une misère ambiante qui fait en sorte que, bon, on est toujours un peu le privilégié malgré tout au Mexique parce qu'on en est plus riche que les autres, faut le dire, comme occidentaux. Donc, de quoi je me plains? Donc, on a quand même en face de nous toujours un ouvrier ultra travaillant. Tu sais, on est toujours appelé à relativiser son malheur, entre guillemets, puis je ne suis pas malheureux du tout. Là. Moi, je me considère comme heureux. Mais bref, c'est ça. Moi, être à Mexico me permettait quand même de relativiser beaucoup tous ces extrémistes-là, leur présence sur le net, qui nous mène un peu d'une certaine façon, moi, de moins en moins, là. Mais comme tu dis, quand on est rendu à... C'est plus quand on s'attaque à des membres de la famille, etc.
Ouais, puis, eux n'ont pas choisi ce métier-là.
Non, c'est ça.
Si t'es le fils d'un politicien, d'une politicienne, ça doit être hallucinant des fois tout ce que tu peux entendre et ce que tu peux vivre. Mais moi, c'est plus le fait qu'il y en a sur Twitter, exemple, qui vont mettre ta photo, la photo de ta maison sur Internet, juste pour faire de l'intimidation. Il n'y a pas personne qui va se pointer chez vous, mais... T'sais, ta blonde va se dire, qu'est-ce que notre maison fait sur les réseaux
sociaux? Non, mais tu vois, en Europe, ça serait pas toléré. Hein? C'est impossible, en fait. Là.
Ah ouais? Ben juste non. Ici qu'on tolère. Mais en même temps, tu veux retrouver
ben parce
comment,
qu'au Québec,
ces
gens-là? On pense qu'on est à l'abri de justement de ces phénomènes violents. Mais non, je pense qu'un politicien en Europe ne peut pas prendre le risque que sa maison se retrouve sur le net. Là. D'ailleurs, des gars comme Éric Zemmour ont été longtemps sous protection policière. Je connais des gens qui. Bon, qui il allait dîner chez des gens que je connais, tout ça, puis bon, il me racontait une anecdote là, que bon, le gars avait deux policiers là, toujours dans la cage d'escalier là, pendant le dîner.
Trouves-tu des fois qu'on a au Québec, je sais pas comment ça se passe ailleurs en France, là, mais des idéologies qui sont un peu sectaires? Des gens qui mentent en sachant très bien qu'ils mentent, mais parce que les gens de leur communauté sont déjà vendus à ça, continuent de mentir, tu sais. Un homme peut être enceinte. C'est totalement débile de dire ça, tu sais. C'est un homme ne peut pas être enceinte. Un homme peut donner des spermatozoïdes, qu'il y ait une course jusqu'à l'ovule dans une femme qui a des ovules là, puis que ça donne un bébé. Mais on est allé dire au Québec qu'un homme pouvait être enceinte parce qu'on avait peur d'outrer des gens qui étaient des femmes, qui étaient devenus des hommes, puis qui ne voulaient pas se faire dire qu'il était encore des femmes parce qu'il était enceinte. C'est sectaire parfois, Jérôme. Puis des fois, je me dis,
oh oui,
c'est-tu nous qui sommes dans l'erreur ou c'est ces gens-là qui, en mentant, ont l'impression de contribuer à une meilleure société, je sais pas.
Mais c'est sûr qu'eux, ils sont convaincus d'être du côté du bien. Donc, eux, c'est comme une religion. Là. C'est-à-dire, eux, ils propagent la foi et toi, tu es un infidèle, en gros. Là. Donc, c'est vraiment une logique religieuse. Sectaire, comme tu dis, sectaire, c'est encore plus loin que le religieux. Donc, ils sont convaincus d'incarner le bien. Après, on voit que la réalité ne compte plus, là, surtout dans le cas du transgenriste. Comme tu dis, un homme enceinte, déjà, ça ne s'accorde pas en français. Là. Il y a une faute. Il arrive même sur Word, même si Word est devenu un peu woke aussi. Là. Mais si Word ou Antidote est bien réglé, il y a une faute qui apparaît. Donc, un homme enceinte, en général, déjà en français, ça n'existe pas. Ça n'existe pas plus biologiquement. T'sais, on parle beaucoup de post-vérité. On revient un peu au complotisme. Cette gauche-là, bien pensante, pense que c'est la droite, Donald Trump, qui, lui, invente des choses. Mais écoute, un homme enceinte, c'est une invention. Là. Ouais. Donc, la réalité ne compte plus. C'est la post-vérité. C'est, on l'a vu aussi dans le cas de la boxeuse Iman Khelif, là, où des journalistes bien pensantes comme Isabelle Haché ont fait un article dans la presse pour dire que c'est épouvantable le sort d'Iman Khelif, elle est victime de désinformation, etc. C'est une femme. Alors que récemment, il y a un rapport quand même qui est sorti, révélé par un journaliste indépendant.
Chromosome XY. Là.
Un rapport de deux hôpitaux, un à Paris, un à Alger. Ça semble assez solide. Là, avec il y a des extraits aussi, des photos du rapport comme tel qui ont été partagés.
Elle veut poursuivre tout le monde parce qu'elle dit que c'est une atteinte à sa vie privée.
Donc, bon, fait que là, on se fait dire dans un premier temps, vous êtes des complotistes, vous remettez en question la féminité là, de Iman Khelif, la boxeuse, rappelons-le, là, qui est comme contre laquelle la fameuse boxeuse italienne qui s'était... qui avait déclaré finalement, comment on dit ça, là,
forfait
en quelques secondes.
Elle voulait pas se faire tuer dans le ring.
C'est ça, les images ont fait le tour du monde en quelques secondes aussi. Donc, Iman Khelif, ben, ça, on se fait dire, ah, vous êtes des complotistes, vous remettez en question sa féminité. Ah, mais là, on apprend que finalement, ben, Iman Khelif n'a pas un profil biologique qui correspond à une femme. Non. Donc, c'est qui a inventé la vérité là, à ce moment-là? Donc, ce camp-là devrait au moins reconnaître que la post-vérité, comme on dit, ça marche aussi, ça concerne tout le monde, en fait. Là. Donc, on revient à ce qu'on disait au début. Quand tu as des pages qui sont dédiées apparemment à lutter contre le complotisme mais qui propagent des fake news et des théories de la conspiration...
En le sachant très bien.
C'est quand même... Mais je ne sais pas s'ils le réalisent, en fait. Est-ce qu'ils savent?
Mais Jérôme, je veux dire...
J'ai l'impression qu'ils se croient, puis comme tu dis, ils sont sectaires, ils sont embarqués là-dedans, ils s'auto-endoctrinent.
Tu sais, moi, j'aime bien le factuel, puis j'aime bien la science peut progresser, mais tu sais, jusqu'à maintenant, une personne qui peut avoir un enfant dans son ventre pendant 9 mois, c'est une personne qui est née de sexe biologique féminin. C'est une femme enceinte. Ça peut pas être un homme enceinte. Un homme va te donner des spermatozoïdes. Si toi, tu es une femme, puis en passant, le message est clair, là, tu sais, puis j'en ai souvent parlé. Moi, là, si tu as besoin de faire une transition pour être heureux ou heureuse, c'est dans ta cour, puis je suis très content que tu le fasses si ça peut aider. Mais ne me fais pas mentir, par exemple, pour que toi, tu te sentes mieux. Je peux pas dire qu'un homme peut être enceinte. Ça arrivera jamais. Mm-hmm. Si tu me dis, ouais, mais Yann, j'aimerais mieux que tu dises ça, je peux te dire, ouais, mais moi, j'aimerais mieux pas le dire. T'sais, toi, si tu veux le dire, c'est correct, mais d'imposer ça à une télé nationale, de dire à tes employés, savez-vous quoi, si vous parlez de tel sujet, ce serait bien que vous fassiez progresser les choses puis qu'une femme peut être enceinte. Ça, un homme peut être enceinte, ça, je
dire, bon,
j'embarquerai jamais là-dedans.
Après ça, on déplore la montée de la droite populiste. Imaginez à quoi ça répond. Ça répond évidemment, ce genre de dérive.
Est-ce que tu vois des woke partout?
Non, pas partout. Puis le wokisme, je trouve que c'est un concept qui reste assez large. Ça englobe beaucoup de choses. Donc, moi,
parce que quand c'était expliqué au départ, wokisme, là, je trouvais ça plutôt bien, moi, au départ. Tu sais, quand je connaissais pas ce mouvement
woke. Ça a émergé, ça faisait pas, ça, c'est pas si
faire
vieux.
10 ans à peu près. 10 ans,
non, mettons, moins que ça.
Moins que ça.
Au Canada, on parlait beaucoup de multiculturalisme. Après ça, ça a été beaucoup LGBT. Fait que là,
mettons entre 5 et 10 ans. Là, ouais, je trouvais ça cool. Des gens qui veulent faire progresser la société. On est là pour progresser. Puis à un moment donné, ça a été pris, ce mouvement-là, par des extrémistes qui l'ont fait complètement dérailler, qui a fait en sorte que des gars comme moi, qui sont plus dans le factuel, qui sont plus... Tu sais, moi, je suis dans le moment présent, puis je n'irai pas la science, ben je décroche de ça. Puis là, de voir un Poiliev qui parle de woke à tous les 2 minutes, je me dis, tu sais, il est pas mieux que les autres, là. Il est pas mieux que les autres.
Ouais, mais on a reproché ça au Journal de Montréal, de parler trop de wokisme.
Mais c'est parce que ça finit plus.
En même temps, ils font exprès aussi.
Pense à d'autres choses.
Ouais, ben écoute, je pense que là, on sent en Occident quand même un vent, Il y a une sorte de retour du balancier.
Ouais. T'as-tu l'impression qu'avec l'élection de Trump, l'élection de Trump, on va en parler tantôt d'ailleurs, t'as-tu l'impression qu'avec l'élection de Trump, l'élection de Poilievre qui va probablement arriver bientôt, on se le souhaite, avec écoute, un Paul Saint-Pierre Plamondon qui est un peu écœuré des woke aussi.
Ouais, bon, je pense qu'il est un peu ambigu quand même, son discours. Ben,
il essaie de plaire un peu à une droite québécoise.
Je pense que oui. Ben, Lisée a déjà essayé ça, là, bon, plus sur l'immigration. Ben, c'est sûr que le PQ, par contre, reste toujours assez opposé à l'immigration de masse parce que, bon, c'est contre sa mission première de préservation du français puis tout ça.
Mais c'est-tu la fin du mouvement avec toutes ces personnalités politiques-là qui commencent à sortir en disant les woke, c'est fini?
Je pense que oui, oui. Il y a un retour du balancier, puis il y a eu trop d'excès. Là. Tu sais, à l'époque où le féminisme défendait des femmes, des gens qu'on comprenait, là, c'est rendu que le féminisme défend des hommes. Tu sais, vous comprenez? On est allé un peu trop loin. Mais c'est comme s'ils sont prêts de s'arrêter, en fait. Ils voient pas le. Ils veulent toujours. Ils cherchent de nouvelles cibles constamment, alors que, bon, vous avez eu des véritables progrès. Mais là, ils cherchent à aller toujours plus loin et finalement jusqu'à faire un peu n'importe quoi. Là, parce qu'écoutez, le féminisme ne défend plus les femmes, bien souvent, mais des hommes, par exemple, dans les vestiaires ou etc., ou même dans les prisons. On sait qu'il y a une vingtaine, en fait, d'hommes trans au Canada dans des prisons pour femmes.
Dont des tueurs, dont des pédophiles. Sexuels.
Exactement. Donc, on met en péril la sécurité des femmes au nom d'un féminisme qui est complètement renversé. Là. Donc, tu sais, oui, comme tu dis, le wokisme au départ, si c'est le progressisme en général, on est tous d'accord pour un certain nombre d'acquis sociaux. Je sais pas, les garderies, les droits des femmes, etc. Il y a plein de choses qu'on veut pas remettre en question.
On a été jusqu'à l'Assemblée nationale à faire un vote à main levée sur les drag queens. C'est protégeons les drag queens. Mais voyons donc, moi, c'est pas pour ça que je vote pour toi. Là. T'sais, on est-tu. Les drag queens, c'est pas des personnes, c'est des personnages.
Oui, des personnages dans les cabarets, mais sinon, c'est des porte-paroles. On sait à quoi elles servent. Ce sont des porte-paroles de l'idéologie. La théorie du genre auprès des jeunes. Et regarde, tu vois aussi, ça, c'est une autre.
Ça n'a aucun lien. C'est des hommes qui se déguisent en femmes. C'est pas des transsexuels. C'est des drag queens.
Ce ne sont pas des transgenres comme tels, mais c'est une figure artistique qui est devenue le porte-étendard de ça.
C'est comme ça qu'on l'a fait ça au Québec.
Oui, parce que c'est ça. C'est un peu comme si le Père Noël venait apporter la bonne nouvelle trans auprès des enfants. Là, je sais pas si ça sort.
Mais c'était fou quand j'ai vu ça. François Legault qui se mêle de ces dossiers-là de drag queen dans les garderies ou encore dans les bibliothèques. J'étais là, OK, on est rendu là pour de vrai. Là. Dans notre folie, on est
là.
Mais
c'est vrai
là.
Que je suis d'accord avec un peu nos détracteurs. C'est-à-dire que ça détourne un peu l'attention.
Oui.
Remarque que moi, je suis contre. Là. Je suis très opposé à ça. Je pense qu'on est manifestement devant une volonté d'endoctrinement des jeunes très tôt. C'est-à-dire on a compris à gauche, chez une certaine gauche radicale, qu'il fallait finalement s'implanter dans les esprits des jeunes très tôt parce que l'esprit des jeunes est plus malléable. Donc, tous les régimes totalitaires ont commencé par les enfants. Donc, c'est pas bon. Là, ça. S'attaquer aux enfants d'entrée de jeu, essayer de passer, d'imposer une idéologie à des enfants, je pense qu'on voit la marque d'un totalitarisme. Là.
Parce que l'acceptation des communautés LGBTQ+2, là, je pense que ça a été fulgurant là, au niveau de l'acceptation. T'sais, maintenant, moi, mes enfants connaissent des gens qui se disent ouvertement homosexuels et n'ont aucun problème avec ça.
Surtout au Québec.
Ils ont l'impression que ça a toujours existé, puis ça a toujours existé, effectivement.
Ah oui.
Mais là, de leur mettre des drag queens là-dedans, je l'ai vraiment jamais compris. Là. Puis, tu sais, heureusement, maintenant, ces enfants-là ont pas mal tous des parents qui sont en mesure de décider si oui ou non ils vont y aller à la bibliothèque pour avoir le compte de Noël de Madame Drag Queen ou Monsieur Drag Queen. Mais cette poussée-là à l'Assemblée nationale des drag queens, j'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère à l'accepter, de voir ça, qu'on parlait des drag queens-là, alors que c'est pas un enjeu de société, malheureusement. Là.
Non, c'est pas un enjeu de société. Il faut pas que ça en devienne un, en fait. C'est ça la question. Reste que, bon, la motion, moi, je l'appuie quand même. On s'est opposé à ça.
Ah non, ça a été accepté.
Ça a été accepté, ben oui, ben au oui. Contraire. Ben oui, c'est ça, écoute. Donc, on a appuyé le compte, dans ta belle raison. La fin d'année s'en vient. Mais il ne faut pas que ça devienne, en fait, un enjeu. Il ne faut pas que... Il faut pas accepter ça, tout simplement. Parce que oui, ça peut paraître banal, ça peut paraître rigolo, etc., mais quand on lit vraiment les intentions... Puis moi, je suis pas puritain non plus du tout. Là. Je pensais pas qu'on finirait au Québec à débattre effectivement d'une figure de cabaret qui n'a jamais choqué personne, en fait, quand cette figure-là était à sa place. Mais
écoute, un article qui date du 4 avril 2023 d'Hugo Pilon-Larose dans La Presse. À l'initiative de Québec solidaire, mardi, les députés ont adopté à l'unanimité une motion qui déplore la montée des propos haineux et discriminatoires envers les drag queens.
c'est surréaliste, hein? Surréaliste.
Non,
mais le PQ l'avait appuyé, et tu vois, là, tu évoquais PSPP. C'est pas, je te dis que, bon, Paul Saint-Pierre Plamondon, je crois... Est-ce que je crois en sa sincérité quand il parle du wokisme? Hein? Je sais pas à 100%. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Mais oui, je pense que là, il s'est fait dire... que ce serait bon pour les sondages, effectivement, pour le PQ dans les sondages, de taper un peu sur ce qu'appelle le wokisme. En même temps, le PQ, comme, bon, veut freiner l'immigration, il n'y a pas intérêt non plus à faire dans la bien-pensance, même s'il a longtemps été là-dedans. Mais moi, j'ai de la misère quand même avec des gens qui ont appuyé les mesures sanitaires massivement et qui, aujourd'hui, nous disent qu'ils sont pas très woke. C'est comme, écoutez, là, vous étiez quand même dans un safe space sanitaire. La crise, la gestion de la pandémie, ça fonctionnait un peu sur le modèle woke. Là, c'est-à-dire qu'il y avait des bons, des méchants. Il y avait des symboles de vertu qu'on se mettait d'en face, notamment le masque. Donc,
les ennemis, c'était ceux qui voulaient pas se faire vacciner.
C'est ça. Donc, c'était la même chose, en fait, mais Mario en version, version santé publique.
Mario Dumont, le futur chef de la coalition Air Québec, qui disait si vous avez un beau-frère, une belle-sœur, un frère, une sœur, un père, une mère qui ne veulent pas se faire vacciner, bannissez-le de votre vie. T'sais, qu'est-ce que c'est ça? Hey, j'ai retrouvé la motion. La motion qui a été votée à l'Assemblée nationale soulignait que les drag queens ne devraient en aucune circonstance faire face à des insultes violentes, à de l'intolérance et de la haine pour leur participation à la lecture de contes pour enfants. C'est ce qu'on a décidé à l'Assemblée nationale. Moi, jusqu'à maintenant, que ces gens-là soient victimes de violences, tu comprends que je suis entièrement d'accord avec l'Assemblée nationale, mais le point est qu'ils n'ont pas d'affaires auprès de nos enfants.
Non, mais c'est ça. Donc oui, plusieurs dérapages. Et oui, je pense qu'il y a un retour du balancier, un backlash. Et écoute, je m'en réjouis.
Le débat, on en a souvent parlé, toi et moi. Le débat, tu sais, encore ce midi, je parlais avec... c'est ce matin, je parlais avec Audrey d'un sujet. Pas vraiment important, là, mais on s'entendait pas sur le sujet. C'était Occupation double, voilà.
Okay.
Fait que moi, je disais que Occupation double avait perdu beaucoup de plumes. Tu sais, pour ce qui est des gens qui écoutaient ça. Quand j'étais jeune, tout le monde écoutait Occupation double. Moi, je travaillais, fait que c'était une maudite bonne affaire. Mais c'était une émission qui était hyper populaire, qui attirait des millions et des millions de personnes. Puis aujourd'hui, ben on atteint quoi, 100, 200 000 personnes à peu près à la grandeur du Québec. C'est une émission qui a perdu des plumes. Puis je disais tout simplement que ça n'avait pas sa place puis qu'on pourrait peut-être passer à d'autres choses. Puis elle a dit « Non, mais attention, Occupation double, ça pogne beaucoup sur le web. J'écoute ça sur le web, patati, patata.
Okay, » ouais.
Puis il y a deux auditeurs qui m'ont écrit en disant « Ouais, là, vous vous chicanez, on n'aime pas ça entendre ça. » Non, on débat. Pourquoi au Québec, on n'a pas cette notion-là du débat qu'ont les Français, qu'ont les Américains? Qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'on ait peur de la chicane?
Oui. Ben, écoute, je pense que je pense qu'on n'a pas la culture du débat. Et puis je reviens d'un séjour à Paris. À chaque fois, je constate qu'ils l'ont beaucoup plus là-bas, les Français. Mais je pense qu'écoute, je lançais une explication récemment dans un autre podcast où je disais au Québec, c'est comme si on avait l'impression que ce qu'on appelle la chicane allait nous désunir comme peuple. Et donc, c'est vu comme une sorte de division à l'intérieur du noyau là, québécois. Et c'est comme si, comme on a toujours voulu survivre culturellement face à l'anglais et tout ça, c'est comme si il faut préserver un consensus pour rester unis face à ce qu'on perçoit comme une menace culturelle. Donc, je pense qu'il y a comme cette espèce de... Ça, c'est comme intuitif. Donc, rester unis face à l'adversité... anglophone, en gros. Sinon, il y a eu, bien sûr, l'emprise de l'Église, qui a été très forte, là, presque...
L'Église qui a été remplacée par les politiciens.
Oui, le modèle québécois. Et là, est arrivé, effectivement, le modèle québécois, l'État québécois qui remplace l'Église en plein de domaines, éducation, santé, et qui récupère un peu l'esprit de l'Église en termes de dogme, hein? C'est-à-dire que le modèle québécois, finalement, c'est parfait, hein? c'est de la révolution tranquille, c'est extraordinaire, on ne peut pas critiquer ça, la révolution tranquille, là. C'est l'affranchissement des Québécois par rapport à une époque sombre, la grande noirceur. Donc, on est sorti de la grande noirceur grâce au Saint gouvernement qui a remplacé la Sainte Église. Et donc, c'est comme si l'État avait gardé un peu la sacralité de l'Église. Puis si on rajoutait un autre facteur, ben écoute, l'emprise du quotidien aussi, c'est-à-dire on débat, dans les journaux au Québec, c'est beaucoup des faits divers, donc on a de la misère à prendre la hauteur nécessaire pour débattre aussi, parce que ouais. Ça prend quand même des arguments, etc. Donc, je ne veux pas dire que le Québec n'a pas un grand niveau intellectuel, mais c'est quand même un peu vrai par rapport à d'autres pays.
Okay, je te pose la question comme ça. C'est une hypothèse que j'ai. Ça se peut-tu que le milieu journalistique, le milieu artistique soit gangréné par la gauche extrême?
Ah, ben ça, oui, une autre facteur.
Qui fait en sorte qu'à partir du moment où il y a des opinions contraires qui pourraient être avancées, que ce soit à la radio ou encore à la télé ou même sur les réseaux sociaux, parce que c'est sur les réseaux sociaux, ça a commencé. On essaie de limiter le discours de certains. Ça se peut-tu que ça soit la gangrène de l'extrême gauche qui soit beaucoup trop présente au Québec versus, mettons, en Europe ou peut-être aux États-Unis ou peut-être le Mexique?
Oui, c'est une autre couche. Tu as deux couches. Là. J'ai évoqué des facteurs qui sont plus intérieurs, mais le wokisme est quand même pas une invention québécoise. C'est venu des États-Unis. Bon, c'est un truc anglo-saxon. Nous, en fait, on se contente un peu de traduire en français les lignes woke, en gros, qui nous arrivent en anglais. Et donc, il y a deux trucs qui se superposent. Donc, tu as le modèle québécois qui aime le consensus, qui valorise bon, une certaine médiocrité, etc. Et là, tu as le wokisme qui est embrassé par ce même establishment. Donc, c'est un mélange un peu pas très bon. Là. Vous avez comme deux couches de bien-pensance, celle du modèle québécois et celle du wokisme, et ensemble, c'est catastrophique. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a le signalement de vertu et que... Donc, et on aime aussi au Québec à se croire à l'avant-garde aussi des mouvements sociaux, notamment environnementaux, etc. Donc, on aime se croire à l'avant-garde, peut-être un peu pour compenser le fait que finalement, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur la Terre, puis que notre rôle reste modeste à l'échelle planétaire. Donc, on compense aussi en se croyant toujours à l'avant-garde de si on est donc progressiste au Québec par rapport aux méchants Américains qui sont des colons, qui sont vulgaires, qui ont élu Donald Trump encore une fois. Donc, les États-Unis, c'est les gens matérialistes hein, qui n'ont pas de vraies valeurs. Et nous, au Québec, on serait plus authentique, moins matérialiste, plus modeste aussi d'une certaine façon. Donc, tu as un peu ce sentiment de supériorité morale qui est un peu bidon parce que on n'est pas parfait au Québec, on a plein de défauts, puis on a des qualités aussi. Mais pour avancer comme société, il faut être capable de reconnaître que bon, tout n'est pas parfait, puis que c'est ça, il y a bien des choses à améliorer.
Mais c'est juste le fait qu'il y en a qui tentent d'éradiquer des gens qui ne pensent pas comme eux.
Ah oui, culture de cancellation.
Tu sais, je parlais avec Sophie Durocher la semaine passée. T'sais, moi, je lis une fois de temps en temps les chroniques de Sophie Durocher, comme je lis une fois de temps en temps les chroniques de Joseph Facal. Des fois, je suis d'accord, des fois, je suis pas d'accord, mais je trouve que c'est sain de lire des fois des papiers avec lesquels tu n'es pas en accord. Parce que ça se peut que des fois, tu apprennes des affaires. Ça se peut même que tu puisses changer d'idée sur un sujet ou l'autre, mais on n'est pas beaucoup à le faire, ça. Les gens vont rester, puis les algorithmes n'aident pas.
Les algorithmes
sur Internet font en sorte qu'on se radicalise sur certains sujets, mais il faut entendre des gens qui ne pensent pas comme nous. Ben, tout le monde en parle, puis je reprends un peu cet exemple-là. J'imagine que t'en as parlé souvent, mais tu sais, l'histoire de canceller un gars parce que c'est un pro-masculiniste qui dit des niaiseries sur Internet, puis que ce gars-là est le digne représentant de Satan. OK, je comprends qu'il y a eu des signatures puis que c'est un mouvement puis les filles ne voulaient pas voir ce gars-là parce que ce gars-là était nocif. OK, ils l'ont cancellé, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est à Radio-Canada, c'est une télé d'État.
Qui est censé représenter par tout le monde. Tous les contribuables.
OK, le prochain, ça va être qui? La prochaine, ça va être qui à être cancellé? T'sais, quelqu'un qui va parler, je sais pas moi, du lobby pétrolier, comme quoi le pétrole est pas prêt.
Le pétro-masculinisme, qui a déjà été évoqué dans Le Devoir.
Et ils vont faire une pétition pour ne pas entendre ces gens-là. Puis là,
finalement, on a entendu un masculiniste, hein, un mâle alpha sur les ondes, tout le monde en parle.
Oui,
un.
Tu sais, ça a donné.
Qui est une espèce de dîner de con, là.
Ouais, ça a donné quelque chose auquel je pensais que c'est exactement ça que ça allait donner, là. C'est qu'il s'est ridiculisé, puis c'est une maudite bonne affaire. Mais les gens ont tendance à se dire, OK, moi, je vais me plaindre quand ça... Je vais me battre quand ça fera pas mon affaire, mais le jour où ça fera pas mon affaire de mon bord, puis je vais vouloir me présenter, je voudrais pas que les gens fassent une pétition contre moi pour que je puisse aller m'expliquer. C'est comme le phénomène du pas ouais, dans ouais. ma cour. Ah, oh, mais ça, ça me touche pas. Fait que ça me dérange pas de signer. Là. Je veux pas cet étron-là. À... Tout le monde en parle. Voilà. Yannick Marceau, j'ai signé. Merci, bonsoir. Mais le jour où moi, je vais avoir une idée différente des gens qui m'entourent.
Ça a commencé à gauche, ça implose. Hein,
puis je vais vouloir aller me pointer à Tout le monde en parle pour les informer sur ce que moi, je pense. Puis là, il va y avoir une pétition.
Ils vont s'entre-canceller. Non, mais c'est... quand on dit la révolution dévore toujours ses propres enfants, c'est ça qui se passe. Puis à Québec solidaire, ben c'est ça qui se passe aussi. Ça dit déjà, GND, c'est un homme blanc hétérosexuel qui.
Et il s'en va, là. Je te l'annonce qu'il s'en va.
Ouais, apparemment.
Hein. Ah, il s'en va. Là. Il y en est a
année,
plein.
Il est six mois de paternité. Là. Bon,
Il va prendre sa paternité. Il a fait exactement ce que tous les bons politiciens qui veulent quitter la politique pour un certain
en
temps.
En douceur.
Ah, c'est pour des raisons familiales. Lui,
qu'est-ce qu'il va faire après, notre GND national?
Moi, je pense qu'il va faire du stand-by dans les médias.
Ouais.
Puis qu'il attend le départ de François Legault.
Mais il n'ira pas à CAQ quand même.
Il pourrait aller à CAQ.
Ça serait tout opportuniste. Ça se pourrait. Oui, ils ont passé de leur vie à dire que la CAQ, c'est un parti de racistes, ouais. La charte des valeurs avant le PQ.
Fait qu'il pourrait aller à CAQ, mais il pourrait aller aussi au Parti québécois.
Mais le PQ reste relativement compatible, mais ils sont tellement entre-déchirés, justement, ben, les souverainistes sur la question de l'immigration.
Il va aller dans les médias.
L'islamophobie,
Jérôme.
Écoute, je sais pas. Hein?
Il va aller dans les médias. Puis là,
mais j'avoue que ce serait pas la première fois qu'un politicien retourne sa veste. Là.
Supposons que Gabriel Nadeau-Dubois cible le PQ là, pour sa nouvelle carrière en politique, là, après le Québec solidaire et après les médias. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver lorsqu'il va être à TVA, mettons? Ah, mais vous savez quoi? Paul Saint-Pierre Plamondon s'est grandement amélioré sur telle affaire. Paul Saint-Pierre Plamondon est un excellent chef. Et tout d'un coup, tu vas voir que Gabriel Nadeau-Dubois va s'éloigner des médias et va redevenir un politicien d'un parti plus généraliste, plus populaire.
Le problème de la gauche de ces gens-là, c'est qu'eux, ça prétendent pur. Hein? Donc, quand on a pensé, on s'est présenté comme un représentant de la pureté idéologique, c'est quand même difficile de se mouiller après ou se... C'est ça que mes remarques, toutes les pirouettes, on les a vues. Là.
C'est une stratégie que je vois. T'sais, moi, j'ai rien pour te dire que c'est exactement ça qu'il va faire. Mais là, de s'éloigner de la politique pour dire oh, « je vais faire de la paternité, on s'en va en élection dans moins de 2 ans ».
Mais c'est sûr qu'il est déçu, GND. Il est déçu du manque de pragmatisme de son parti. Puis on l'a vu dans une vidéo là, récemment avec Rouba Ghazal, juste le nom verbal. Des fois, c'est instructif de regarder les vidéos sans son, là, juste pour ça. Pas que je fais ça souvent, mais par... accidentellement. Et je regardais juste sa posture par rapport à Mme Gaza. Mme Rubal, ça veut dire?
Rubal Gazal.
Donc, je disais que l'année...
encore sur le jet lag.
Pourtant, je la trouve fort sympathique malgré tout, Mme Gazal.
Oui.
Et son nom verbal à GND, je trouve, en disait beaucoup. Là. C'est-à-dire que les deux sont là. Bon, on veut offrir la pilule contraceptive gratuitement sur l'ensemble du territoire québécois. On se demande encore c'est quoi cette patente-là, là. Alors que le taux de natalité est en déclin total. Puis bon, on est tous pour la contraception, là, mais t'sais, faites-vous exprès. Là, vous voulez, c'est aide médicale à mourir et avortement et contraception. Y a-t-il un autre projet au Québec que de mourir d'avance ou après ou pendant? Là, t'sais, on pourrait-tu survivre? On pourrait-tu vivre simplement? Ouais. Ce serait déjà pas
mal. Québec solidaire, tel qu'il a été conçu, ne sera jamais un parti généraliste là, avec des
non,
gens
ben,
un
non,
peu de gauche, un peu de droite.
C'est la Palestine, tu vois, c'est puis... Puis non, non, ils s'entendront pas.
Mais
puis...
c'est la prédiction que je te fais, là.
Oui, oui, bien, tu vois, le prof Caron me faisait la même prédiction.
Ah ouais? Ouais, ouais. Je l'ai pas entendu.
En privé, il me fait ça.
OK, en privé. Bon, il va sacrer son camp, il va se ramasser dans les médias, puis après ça, il va revenir soit pour la CAQ ou soit pour le Parti québécois. Mais ça, je sais pas.
Mais pour la CAQ, ça m'étonne encore plus. Pour fédéral, non?
Parce que la CAQ est une coalition.
Ouais.
Fait que techniquement, là, la CAQ, il devrait y avoir des gens de gauche et de droite. Donc, il y aurait de la place pour Gabriel Nadeau-Dubois. Puis, il n'en demeure pas moins que c'est encore un parti qui est, somme toute, bien installé partout à la grandeur du Québec. Là. Ils ont une équipe en place qui est déjà là. Tandis que le Québécois
qui est assez opportuniste peut-être aussi pour...
Tandis que le Parti québécois est en train de s'installer, puis c'est eux probablement qui prendraient le terrain une fois que la CAQ partirait. Mais il y aurait de la place aussi pour lui au Parti québécois. Fait que je suis pas mal persuadé, parce que son Québec solidaire...
Je verrais plus au fédéral, par exemple.
Ah ouais?
Ouais.
Ben, pour le NPD?
Mais remarque, le problème, c'est qu'il aussi s'est présenté comme souverainiste. Donc, non, moi, je le verrais carrément au PLC, là. C'est là que je le verrais, GND, en fait. Je le verrais presque chef du Parti libéral du Canada, parce que c'est ça un peu son identité. Il lui pense
qu'il... Jérôme, il n'a jamais travaillé de sa vie.
Oui, mais c'est pas grave, sans polier.
Il était chef des Carrés Rouges parce qu'il était à l'association étudiante. Après ça, il a été embauché pour écouter des stations de radio puis lire tout ce qui se passait dans les journaux avec, le CSN, par un syndicat qui était la CSN. Puis après ça, il est devenu politicien. Puis tu le vois.
Mais non, c'est un révolutionnaire, c'est un guerrier.
C'est un prof de théâtre.
Ben non, Marceau, c'est un guerrier. C'est le cœur à la révolution.
tu viens de me débiner, là.
Mais non, je pense que son identité, je pense que GND, c'est quelqu'un qui d'abord, c'est un carriériste, manifestement.
Ouais, ouais.
C'est quelqu'un qui, dans le fond, qui a tout le système derrière lui, mais qui continue à prétendre qu'il est anti-système, alors que les anti-systèmes, c'est nous. Là, c'est pas GND aujourd'hui. Tout le monde a compris ça avec Javier Milei.
Il s'exprime bien, il est beau bonhomme. Fait que, écoute, fédéral, je te dis pas non. Toi, tu le vois à la
fin. Ben, NPD, Québec solidaire, ont toujours dit que c'était assez proche. Mais le problème, c'est la question nationale au Québec. Ouais.
Puis, il va-tu être élu?
Mais regarde Guilbeault, le gars. Si Guilbeault est devenu ministre dans le gouvernement Trudeau, tout est possible, dans le fond.
Steven Guilbeault, ouais.
Puis, c'est quelqu'un qui est un activiste, quasiment, un activiste de l'environnement.
Oui, qui s'est fait arrêter.
L'écologiste radical.
Ouais.
Donc, GND, un peu ce profil-là. Là, il faudrait. Puis, lui, il n'aura pas à se couper les cheveux. Donc.
La différence, c'est que Steven Guilbeault, puis ça, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, quand je t'illustrais que c'est le fun d'entendre les deux côtés. Steven Guilbeault, moi, j'avais le plaisir de jaser pendant 3 heures, je te dirais, une fois par 2 mois à peu près. Je faisais de la radio de soir, puis je l'invitais une fois par 2 mois pour parler d'environnement, puis parler des divers sujets qui touchaient l'environnement. Puis il y a une chose que je vais toujours respecter de ce gars-là, c'est que ce qu'il dit, il fait. Partait de Montréal dans les tempêtes de neige, prenait l'autobus. Une fois débarqué de l'autobus, il avait son gros sac à dos, il avait son gros manteau d'hiver, il avait ses grosses bottes, puis il arrivait en studio à manchait de même, la tête pleine de neige.
Ah oui, oui.
C'est un gars qui prône...
Prêche par l'exemple.
Il prône beaucoup de choses, mais il fait beaucoup de choses par lui-même. Quand je vois des fans du RTC, le réseau de transport en commun, qui arrivent ici en char, eux autres, ils me font chier.
Ah ouais, tu vois ça souvent.
Eux autres, ils me font... Ça arrive très souvent, soit dit en passant. Au même titre qu'un député de Québec solidaire qui prône le à vélo, le à piéton, puis qui se pointe ici en char. J'ai tout le temps le goût, j'en reçois jamais, mais j'ai tout le temps le goût de le dire dans l'entrée. Beau char, juste pour les
écoeurs. C'est pas électrique en plus, imagine.
On est avec Jérôme Blanchet-Gravel pour encore à peu près une vingtaine de minutes, les amis. Jérôme Blanchet-Gravel est dans Libre Média. Après la pause, on va parler de Donald Trump qui en surprend plus d'un, alors qu'il n'est même pas encore redevenu président des États-Unis pour son 2e mandat. On revient.
Marceau, le soir. Le garage à Dan. Dan Garon a fait bien du ménage pour vous accueillir dans son garage tous les vendredis 18h. Il vous pousse les plus grosses tonneaux qui se démoderont jamais. Un peu comme lui. Vous allez peut-être même entendre du vieux stock qu'on joue pas ailleurs dans la programmation. Le garage à Dan. Tous les vendredis 18h.
Boulevard 101.
Passe dans 3000 présente. Le Bon Noël de Marceau.
Imaginez-vous donc qu'il y en a un qui avait pensé à ça. La poche à Marceau. La poche du Père Noël. Voyons donc voir si je vais parler de ma poche en nom. Mais le concours Passe-temps 3000, c'est super trippant. Fait qu'écoutez-moi tous les midis cette semaine. Chaque jour, je vais placer un cadeau dans mon Bon Noël à inscrire au blvd.fm. Et à la fin, il y a une famille chanceuse qui va gagner tous les jouets qu'il y a dedans. Juste à temps pour Noël. C'est ça, la magie des fêtes.
Je l'aurais bien gardé, mais je veux pas.
Procurez-vous une Polestar 2 2024 parmi l'inventaire et profitez de remises gouvernementales pouvant aller jusqu'à 12 000 $ chez Polestar Ville de Québec.
Chez Cora, on sait très bien que pendant les fêtes, on est tous partagés entre la joie d'offrir et celle de recevoir. Avec Cora, pas besoin de choisir. Pour chaque carte cadeau de 25 $ achetée, vous recevez une carte promo de 10 $ pour un temps limité dans les restaurants Cora seulement.
Peu importe que vous soyez du style Noël classique, rustique, Noël moderne ou même quétaine, retrouvez tout chez Floralie Jouvence, la plus belle variété de plantes et de sapins naturels et artificiels. Floralie Jouvence, le plus beau magasin de Noël. Ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h à Québec.
Découvrez les divines bûches de Noël croque en bouche. L'or noir royal aux saveurs de chocolat et noisettes. La plein fruit à la vanille et aux petits fruits. La tiramisu au café et amaretto. Et l'érablière au sirop d'érable et coureur des bois. Le croque en bouche dans Saint-Roch, passionnément gourmand.
Les 6 et 7 décembre dès 15h, c'est le Bastards of the Underground au studio Sonom. Ça va brasser avec 12 bandes de rock et de métal de la scène émergente d'un peu partout au Canada. Info sur la page Facebook du studio Sonom.
La pub que vous êtes en train d'écouter, ben, elle s'est pas rendue là comme par magie. Ça prend quelqu'un pour vérifier l'inventaire, créer le contrat, la placer dans un log commercial avant d'être diffusée en onde. Puis ça, ben, c'est notre Solange qui le fait. Mais Solange, elle part à la retraite. Donc, on recherche un nouvel agent administratif qui sera en charge du routage. Vous êtes structuré, débrouillard et minutieux. Vous êtes clairement fait pour nous. Et si vous aimez travailler avec des gens sympathiques et colorés, on est clairement fait pour vous aussi. Imaginez, c'est peut-être vous qui serez en charge de placer la prochaine publicité de Leclerc Communication. Postulez au carrière.fm.
Les escomptes Lecomte fêtent leurs 40 ans cette année. Pour l'occasion, découvrez leur magasin de Noël, Lecomte de Noël. Sensationnel et féerique, il est le plus grand magasin de Noël à Québec. Pour emballer, illuminer, cuisiner et embellir votre maison pour les fêtes. Situé dans l'ancien local de La Liberté. Un autre incontournable, la boutique Brico Déco. Elle vous charmera par son originalité, sa sélection designer et son ambiance cocooning. Parfait pour vos cadeaux de Noël. Leur équipe sera là pour vous servir et vous conseiller. Stationnement facile d'accès, Brico Déco et Lecomte de Noël, rue Saint-Joseph.
C'est la vente Cyberlundi à l'usine. Obtiens de 25 à 70 % de rabais sur un vaste choix de meubles sélectionnés. Et pour tout le reste, l'usine paye les deux taxes. C'est le temps de remeubler, crois-moi. Jusqu'au 8 décembre, dans nos 5 boutiques et sur l'usine.design.
Le groupe Efficience Soins Infirmiers vous offre une alternative personnalisée pour des services tels que prélèvement, vaccination, test PAP, cryothérapie, dépistage ITSS, santé voyage et plus encore. Environnement chaleureux, accueillant et facile d'accès. Pour une santé à votre mesure. À Le Bourgneuf, Charlebourg et Lévis, groupe Efficience.
Vive le vent de fraîcheur avec Yuzu Sushi. En famille, entre collègues, entre amis. Pour les fêtes, faites-vous plaisir avec notre plateau comprenant des classiques tant aimés pour seulement 79$. Yuzu, c'est toujours bon.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Pis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Jérôme Blanchet-Gravel est en studio. Jérôme Blanchet-Gravel, c'est le gars de Libre Média. C'est le gars qui embarque dans tous les podcasts. C'est le gars qui fait des conférences une fois de temps en temps. Tu as une conférence qui s'en vient dans les prochains jours?
Jeudi prochain, Québec, ben ici même, dans le complexe.
À la scène Le Bourgneuf.
Donc, une grande conférence sur l'avenir des médias et de la liberté d'expression. Et justement, le retour de Donald Trump inaugure en fait une nouvelle ère médiatique. On sait que sa victoire est un peu attribuable aux médias dits alternatifs, notamment des podcasts comme Joe Rogan, tout ça. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir 100, où on en est.
Il y a 100, 150 places. On peut acheter nos billets où, si on veut assister à cette conférence?
Sur le site même de la scène Le Bourgneuf. Sinon, les informations sont également épinglées sur ma page Facebook et sur mon compte X. Mais sur le site même de la scène Le Bourgneuf, tous les événements sont affichés. Donc, vous pouvez acheter votre billet directement sur le site de cette scène qu'on aime beaucoup à Québec.
Parfait. Donc, sur tous les réseaux sociaux, c'est Jérôme Blanchet-Gravel. C'est rare que je parle de Justin Trudeau en bien, là, mais le geste que Justin Trudeau a posé, est-ce que c'était intentionnel ou il était obligé d'embarquer dans un avion avec son ministre puis d'aller rencontrer le futur président des États-Unis à Mar-a-Lago? J'ai trouvé ça bien de la part de Justin Trudeau et j'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Sa cote de popularité n'est pas super élevée actuellement, la grandeur du Canada. On a l'impression que c'est pas l'homme de la situation. On a l'impression que c'est pas l'homme de la situation. Puis la semaine dernière, quand Trump a dit il va falloir que vous fassiez attention à vos frontières, vous autres, la drogue qui rentre chez nous, les immigrants illégaux qui rentrent chez nous, il y en a une partie qui viennent de chez vous, puis ça va être 25% de taxes qu'on va vous appliquer pour tout ce qu'on importe de chez vous. Ça fait peur à beaucoup de monde. François Legault est terrorisé par ça, par la grandeur du Canada. En fait, tous ceux qui n'ont pas lu le livre « The Art of the Deal » de Donald Trump, de 1989, de mémoire, étaient vraiment terrorisés, alors que nous, on le sait que c'est une stratégie de Donald Trump pour amorcer des négociations. Le fait que Justin Trudeau parte et elle rencontre eux, puis qu'il puisse avoir un souper, puis qu'on voit les photos, on dirait que ça a rassuré des gens, ça, par rapport à ce qu'ils pensaient au départ de Justin Trudeau.
Oui, ben je pense comme toi que c'est un bon move, comme on dit. C'est la chose à faire. Après, je trouve que Trudeau ne décroche pas. Là. C'est-à-dire que, rendu là, il lui en reste tellement peu comme premier ministre en termes de temps, là, qu'on aurait quasiment préféré voir Poilievre. Parce que moi, j'aurais préféré que même que Poilievre aille voir Trump, parce que la suite des choses va se passer avec Poilievre. Donc là, Trudeau s'accroche, ne comprend pas qu'il doit quand même céder sa place. Ouais. C'est si urgent, en fait. Là, ça, c'est une dégringolade aussi, Canada. Là, son bilan est catastrophique, parce qu'à tous les niveaux, sur le plan des relations étrangères, sur le plan économique, bon, ça va pas tout à fait bien. L'inflation, les jeunes n'ont plus accès à la propriété ou pratiquement plus. La santé mentale, il y a beaucoup de... En tout cas, tous les secteurs au Canada, il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés par sa mauvaise gestion. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment le temps qu'il s'en aille pour que seulement freiner l'hémorragie. En fait, on est rendu là. C'est même pas une question de sauver le Canada. C'est une question de freiner l'hémorragie, de colmater la... cette fuite incroyable. Là.
Mais c'est de voir à quel point Trump a un impact alors qu'il n'est pas redevenu président. Il a juste menacé et du jour au lendemain, on apprend que le fentanyl rentre par le port de Vancouver.
On a appris plein de choses qu'on savait déjà quand on lit les médias hors du Québec. Là.
Ouais.
Ça m'a surpris un peu. Puis l'hystérie aussi. En fait, j'ai trouvé que la réaction du Canada globalement était très... pas à la hauteur de ce que le Canada prétend être comme pays. Là. D'abord, on...
Mais on n'a pas de pouvoir de négociation avec les États-Unis, Jérôme. Excuse-moi, là. Mais on est 40
millions. Mais on a déjà été indépendants quand même. Quand tu regardes le même Trudeau père là, qui a reconnu la Chine communiste, puis je dis pas que c'était la meilleure chose à faire, mais on a déjà une certaine indépendance face aux États-Unis. On a déjà pris nos décisions. On n'est pas allé en Irak,
mais il fallait quand même importer du pétrole.
Mais oui, on reste une sorte de province de l'Empire. Là,
aujourd'hui, les États-Unis exploitent leur propre pétrole. Ils n'ont plus besoin du pétrole canadien. Oh, oui. Ils n'ont plus besoin du pétrole de personne. C'est, Trump veut ramener le fameux « Make America Great Again », États-Unis first. Puis il va probablement le faire en 4 ans. Du moins, je le souhaite pour ce qui est des Américains. Mais pour ce qui est des Canadiens... Et on n'a pas de pouvoir vraiment de négociation, à part peut-être pour le bois, là, qui est une ressource quand même assez importante là, pour les Canadiens et les Américains. Mais les pouvoirs de négociation, je veux dire, on est 40 millions, sont 330.
Ce serait peut-être les migrants, en fait. C'est drôle, mais peut-être que ce serait de menacer les États-Unis qu'on va laisser passer tous les migrants. On a vu ça en Turquie, tout ça, en Libye.
Ils ont menacé de laisser la frontière disponible pour les migrants qui voulaient traverser l'autre bord.
Oui, mais ça a déjà été employé par des États comme la Turquie qui est menacée de. Bon, par rapport à la Syrie, je pense, plus les gens arrivant en Europe. La Libye, Kadhafi avait menacé souvent. Bon, si vous détruisez mon pays, il va y avoir une invasion migratoire en Europe. C'est pas tout à fait faux, là. Il n'y aurait pas d'invasion, par contre, là, mais disons, il y a une ruée migratoire importante, là, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, mais je pense que c'est un levier qui est politiquement correct. Mais honnêtement, t'es avec Trump, on prête inventif. Mais je trouve la réaction...
Et on exporte 75% puis on importe 25%.
Là. Mais je suis d'accord. Écoute, il y a autant de monde, il y a plus de monde en Californie qu'au Canada. Donc, pour les...
Ils sont quoi, ils sont 140?
En Californie, ils sont 40 millions puis on est 40 millions au Canada.
Californie sont juste 100, elles sont juste 40 millions.
Ouais, mais quand même, c'est le Canada au complet.
Oui, exact. La population, oui.
Donc, pour les États-Unis, on n'est pas plus que la Californie tous ensemble, les 10 provinces canadiennes. Donc, effectivement, c'est pas énorme. On est effectivement une province de l'Empire, en quelque sorte. On est comme un État démocrate de plus, finalement, parce que je pense qu'on serait démocrate, là. Donc, on a un pouvoir de négociation non, qui n'est pas énorme, mais on pourrait quand même imposer un peu plus de respect. Je pense que les États-Unis, on reste un peuple frère malgré tout. C'est-à-dire, ouais. Il n'y a pas de raison là, culturelle à ce que les États-Unis soient si hostiles aux Canadiens. Finalement, bon, il y a le français au Québec qui nous distingue, là, mais dans le fond, le Canada, c'est juste... c'est le même peuple anglo-saxon là, qui a décidé, on se rappelle, de rester fidèle à la couronne britannique, mais c'est la seule différence.
Mais on aurait tellement avantage à faire avec les Américains, parce qu'on le faisait dans le temps, quand il y a eu la route vers l'Alaska. Le Canada a contribué avec les États-Unis. Là. Il était associé puis il bâtissait une route vers l'Alaska parce que c'était payant pour tout le monde. Il y a plein de choses qui peuvent intéressantes qui peuvent être faites avec les États-Unis. Bon, je sais que ça a été dit en boutade. Là. On parlait cet après-midi avec ma collègue Pascale Cévé qui, elle... On regarde les États-Unis de très, très loin.
Ouais, de très, très haut, peut-être?
De très, très haut, je voulais pas le dire. Oui, effectivement, de très, très haut. Puis quand Donald Trump a dit en boutade à Justin Trudeau, vous pourriez être le 51e État des États-Unis.
Regarde, tu vois, là.
Justin Trudeau pourrait être le gouverneur. Trump, il a montré c'était qui décidait, là.
Ouais, puis il se fout de sa gueule aussi.
Ben oui,
soyons clairs, c'est un peu un dîner de cons aussi. Là.
T'as l'impression?
Une caricature extraordinaire à faire. Oui, je pense que oui. Ben, Trump ne peut pas prendre vraiment au sérieux Justin Trudeau. Là,
tu penses-tu qu'il est au courant que Justin Trudeau est vraiment pas populaire au Canada actuellement? C'est un premier ministre qui est extrêmement
fait. Il se fait quand même briefer, là, Donald Trump, même s'il est impulsif, etc. Il sait très bien, il n'y a aucune considération véritable pour Justin Trudeau, Donald Trump. Là. Je ne pense pas.
À ce moment-là, pourquoi?
Au même titre que...
Pourquoi c'est pas Poilievre qui a été?
Ben justement, je trouve qu'il s'accroche tellement à Trudeau, il comprend pas. Mané, vas-tu décrocher? Sérieux, c'est parce que de toute façon, tu peux bien rattraper un peu.
Parce que j'embarque dans tes trucs là, quand tu dis, ouais, ben peut-être que c'est un dîner de con qu'on voulait faire. Mais si on voulait vraiment régler les affaires, tu sais, lui, c'est un président qui est élu, mais il n'est pas encore en fonction. Puis t'as Pierre Poilievre qui est premier à grandeur du Canada, qui est consenti pour être. Pour être le prochain premier ministre du Canada, ça aurait pu être une rencontre avec Poilievre. Voici ce qu'on va faire quand on va rentrer en
presque
place.
Presque, oui, parce que d'abord, Trump rentre à la Maison-Blanche en janvier. Donc,
le 20 janvier?
Donc, évidemment, on sait que Trump va avoir beaucoup plus à faire à Poilievre qu'à Trudeau. Là, donc, il y a quelque chose un peu désespéré dans la démarche de Trudeau, mais qui n'était pas non plus complètement inadéquate. Mais non, je pense que Donald Trump, écoute, je pense que c'est quoi? Bon, le premier ministre canadien veut venir s'asseoir à Mar-a-Lago, on prend un verre de rhum, quelque chose, puis bon, le gars s'assit là, mais écoute, j'étais pas là, mais c'est comme, il fallait voir le regard de Mélanie, la première ministre italienne, face à Justin Trudeau, il y a quand même les dirigeants de la tendance conservatrice n'ont pas de considération profonde pour Justin Trudeau. Là, moi, je pense que c'est faux. Un gars comme Milley rencontrerait Trudeau, c'est vraiment des formalités. Là. Donc oui, je pense que la démarche de Trudeau à Mar-a-Lago est correcte, mais ce ne sera pas assez. En fait, c'est pas suffisant pour préserver des bonnes relations. Les États-Unis nous font un rappel brutal là, aussi. Là, c'est-à-dire, ils nous rappellent aux Canadiens qu'on est souverain. Le Canada est un pays souverain.
The boss.
C'est parce que tantôt, j'évoquais ça, la supériorité morale, c'est double. Hein. D'un côté, on n'arrête pas de vanter notre supériorité morale face aux États-Unis. On est mieux que les Américains, on est meilleur que les Américains. Mais quand ils nous rappellent qu'on est effectivement étranger à eux, ah ben là, ça, on est blessé. T'sais, on veut être distinct des Américains, mais on veut qu'ils nous traitent comme des frères, finalement. Donc, c'est un rappel brutal que nous fait Donald Trump, mais réel. C'est-à-dire, le Canada est souverain et on a une frontière avec ce pays-là. Il faut aussi sécuriser la frontière. Puis ça, c'est vrai en passant. Moi, j'ai rencontré plein de Mexicains qui m'ont raconté comment traverser au Canada pour aller aux États-Unis après, là, ensuite. C'est pas. Ça aussi, j'ai pas appris ça. Là. On peut parler du fentanyl, etc. Ouais.
Mais je pense que c'est toi qui m'as dit ça. La nouvelle ligne, là, c'est qu'ils prennent l'avion, ils arrivent au Canada,
souvent.
Après ça, ils font le chemin contraire.
C'est ça. Oh, oui, ça arrive assez souvent. Les États, c'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué pour les Mexicains de prendre l'avion. Des fois, ils sont même évacués de l'avion à la dernière minute là, parce que bon, on fait une dernière vérification. Et en fait, les autorités. Canadiennes sont complètement alignées sur les autorités américaines. Fait que c'est sûr qu'on reste des collaborateurs très proches, là, économiques aussi. Mais comment dire? Écoute, je pense que d'abord, il faut réaliser, tenir compte de c'est quoi l'approche de Trump. Comme tu dis, art of the deal. C'est-à-dire qu'un gars qui conclut des deals, qui part plus haut pour finir dans le milieu. Puis ça, c'est le principe de la négociation dans tout bon marché au Mexique. C'est-à-dire, évidemment, que le gars part ça à 100 pesos puis tu termines à 30. Là, donc, c'est pas... Ben là, ça, il n'y a personne qui a inventé ça. Là, donc, mais il y a une méconnaissance. Écoute, moi, ce qui me frappe, c'est quand même la méconnaissance de la réalité continentale. C'est-à-dire, tout ce qui est Mexique, on ne sait pas c'est quoi. Alors que, bon, on a un accord de libre-échange avec le Mexique. Donc, j'ai trouvé que le Canada apparaissait faible aussi en termes de... Tu sais, sur le plan d'analyse géostratégique, là. C'est-à-dire que, bon, on est en Amérique du Nord, les amis, là. Le Mexique est géographiquement en Amérique du Nord. Puis, il se raconte toutes sortes de choses. On comprend pas du tout, en fait, ce qui se passe au Mexique. Puis, on aurait tout intérêt parce qu'on est atteint, là, finalement. Tu sais, ouais. Quand je dis que les Mexicains viennent passer par chez nous...
Toi qui as passé énormément de temps... On va terminer avec ça, mon ami, si tu le veux bien. Toi qui as passé énormément de temps en Europe, on est-tu plus français ou on est plus américain?
On est direct entre les deux. Moi, je pense que c'est ça. Non, on est... ouais.
Puis quand tu regardes ça, parce que moi, j'ai été dans l'Ouest canadien là, une couple de fois hein, avec des voyages, quand tu remarques ça, est-ce qu'on a quelque chose en commun avec le Canada anglais?
Ben oui, quand même, on peut le dire. Moi, je me sens pas très canadien anglais, personnellement, il faut le dire. Je me sens plus mexicain que canadien-anglais là, et français, mais ça, c'est plus personnel, c'est lié à mon parcours personnel. Mais non, je pense que le Canada, le Québec, forcément, a développé des liens avec le Canada parce que, bon, on appartient au Canada. On l'a vu durant le convoi des camionneurs aussi. Les gens sont capables de faire fi quand même des barrières linguistiques.
Ouais, tu parlais des terroristes là, qui étaient avec leur spa en.
Oui, c'est ça. Puis la musique techno, là.
Oui, les terroristes.
Donc,
on parlait pas sur Sainte-Catherine qui ont tout détruit là, en étant masqués, puis en ayant des slogans nazis. Puis... Non, on parlait des vrais terroristes. Là, des gens vraiment dangereux pour le Canada et la sécurité de Justin Trudeau. Ceux qui se prenaient en camion, là, c'est ça? Qui prenaient des spas, qui faisaient une petite bière, qui prenaient une petite bière aussi.
Puis distribuaient des muffins.
Oui, ça, c'est des terroristes.
Non, on a des liens avec le Canada, très certainement. Après, bon, la question nationale, bon, on la tranchera pas aujourd'hui. Mais non, le Québécois est un mélange de Français, de Canadiens anglais, mais surtout d'Américains. Je pense qu'on est plus Américains, peut-être même que Canadiens anglais.
C'est ce que je pense.